Chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, nous nous retrouvons à nouveau devant une émission Mets de Résistance tous les lundis de 19h à 20h sur 88.4 ainsi que sur Radio Mono à Châlons-en-Champagne. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une invitée de marque qui s'appelle Odile Maujon, que certains de nos auditeurs qui suivent fidèlement ce qu'on fait ont déjà dû entendre parce que j'ai déjà fait une émission avec Odile et des amis à elle autour de l'Institut Schiller. On parlait à cette époque-là des routes de la soie, du projet chinois Route de la soie, puisque l'Institut Schiller, qui est un institut à vocation internationale, adhère de manière assez importante à ce projet chinois. Et notamment, ils sont à l'origine de la publication d'un ouvrage qui est très intéressant, qui est un ouvrage qui a été réalisé en collaboration avec des scientifiques et des chercheurs en géopolitique, en géographie et en économie internationale sur ce fameux projet et l'impact qu'il pourrait avoir. Alors, ce qui m'intéressait beaucoup, je le dis à nos chers auditeurs, dans le projet Route de la Soie, parce que je sais que c'est un projet qui est assez controversé, qu'il y a certaines personnes qui se méfient de la Chine, surtout en Occident, au sein de l'Union européenne et des États-Unis, on a quand même une presse qui se méfie beaucoup, beaucoup de la Chine. C'est pas le cas dans toutes les presses du monde entier. Attention, il faut toujours savoir faire la part des choses. Mais cela dit, le mérite de l'Institut Schiller, qui, je le rappelle, est un institut à vocation internationale, c'est d'avoir su faire ressortir du projet Route de la Soie les points positifs que ce projet pouvait apporter à notre monde. Quand vous lisez cet ouvrage, d'ailleurs, je vais demander à Odile, avant toute chose, de nous en parler. Quand vous lisez cet ouvrage, vous voyez ressortir les principaux points importants. C'est très intéressant. C'est comme si vous preniez... c'est comme une utopie qu'il faudrait absolument réaliser, finalement. Est-ce que tu peux nous donner les références du livre pour que nos invités, nos auditeurs, puissent se le procurer au cas où, ou au moins peut-être une adresse mail où on pourrait aller se renseigner pour pouvoir l'acheter ou se le procurer. Parce que c'est un livre vraiment important. Je l'ai feuilleté, je le trouve vraiment intéressant.
Bien, et le plus simple, c'est encore d'aller sur le site de l'Institut Schiller et de regarder les publications. Hein. Donc, c'est les nouvelles routes de la soie, pont terrestre eurasiatique, pour en finir avec la géopolitique. Et c'est la dernière phrase a toute son importance.
Oui, alors, cette petite phrase, et il y en a plein des phrases intéressantes et importantes à l'Institut Schiller, c'est une phrase qui est intéressante parce que c'est une phrase qui traduit très bien l'état d'esprit de l'Institut Schiller et de la personne qui la dirige actuellement, qui est sa présidente, qui est Helga Zepp Larouche. Je rappelle que Helga Zepp Larouche est l'épouse de Monsieur Larouche, d'origine américaine, qui a été quelqu'un de très controversé, qui a vécu un peu dans l'underground des milieux favorisés, on va dire entre guillemets, puisque il y a beaucoup de gens qui adhéraient quand même à sa pensée, tout comme sous l'Ancien Régime, on pouvait adhérer aux prémices de l'état d'esprit franc-maçonnique, on va dire, c'est-à-dire en ayant l'esprit ouvert, mais en réussissant à le propager grâce au rayonnement qu'on pouvait avoir de par sa fonction ou sa position sociale. Donc je le rappelle, hein, Monsieur Larouche, c'était pas non plus un Mahatma Gandhi qui vivait au milieu de la foule. Je remets tout de suite les choses à leur place. Cela dit, c'était quelqu'un d'influent, mais qui a été très controversé et bien entendu les pouvoirs en place ont cherché à l'empêcher de s'exprimer. Donc, je demanderai tout à l'heure à Odile de nous en parler un petit peu et de nous parler justement de l'œuvre que continue de perpétuer Helga Zepp Larouche au nom de son mari. Et pourquoi, au nom de qui et de quoi, au nom notamment d'une personne qui s'appelait Monsieur Schiller, qui a vécu au XVIIIe siècle et qui avait un mode de pensée qui était ouvert sur un mode de pensée très intéressant. Un mode de pensée qui est le mode de pensée, j'allais dire, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure, en parlant justement de l'ouvrage sur les routes de la soie, un projet de la troisième voie. Voilà, la troisième voie, c'est la voie nouvelle sur laquelle nous devons nous engouffrer, qui est aussi une voie qui est connotée un petit peu tiers-mondiste, puisque n'oublions pas que Nehru, dirigeant de l'Inde, en 1955, évoquait la notion d'économie de la troisième voie, et que la conférence de Bandung visait à mettre en place justement une économie de la troisième voie. On n'est pas loin, on renoue ici avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'état d'esprit de l'Institut Schiller, qui est un institut qui cherche à mettre en avant justement de nouvelles solutions. Et cette idée d'une économie de la troisième voie qui va avec les accords de la Havane qui n'ont pas été mis en action au profit des accords du GATT, eh bien, c'est un petit peu un des objectifs de l'Institut Schiller, puisque aujourd'hui, Odile, nous allons parler un petit peu du dernier séminaire qui a eu lieu le samedi et dimanche dernier, les 26 et 27. Et pendant ces séminaires, qui ont lieu tous les deux mois, sur Internet, par Zoom, vous avez, enfin, je ne sais pas si c'est Zoom ou si c'est un autre logiciel, en tout cas, c'est virtuel, vous avez beaucoup d'intervenants qui alternent les uns après les autres, qui évoquent sur des thématiques diverses et variées, qui ont toujours un rapport avec les géopolitiques, avec l'économie, avec des perspectives sociétales, avec la pandémie, pourquoi pas, sur les enjeux environnementaux et climatiques, et des perspectives historiques, humanistes, et aussi toujours et avant tout la culture. Et c'est par là qu'on va commencer, avant d'évoquer le séminaire de la semaine dernière, on va commencer par évoquer justement cet engouement pour la culture, en évoquant en évoquant Monsieur Schiller. Tout à l'heure, on a parlé de Léon Bourgeois. Léon Bourgeois, tu me disais que Monsieur Schiller était à l'origine de l'hymne à la joie. Est-ce que tu peux nous expliquer cela ?
D'accord. Oui, je disais aussi d'ailleurs que, et ça peut intéresser les habitants de Châlons-en-Champagne, qu'il y a eu dans des temps assez, enfin il y a une quinzaine d'années, c'était une des rares villes en France, si ce n'est la seule, où il y avait un musée Schiller qui a été fermé, malheureusement, ce qui est très regrettable. Et Schiller, Friedrich Schiller, c'est quelqu'un qui a eu une importance très, très grande. On l'oublie, mais il avait été fait citoyen français, d'ailleurs, pendant la Révolution française. Il a vécu, donc il est contemporain de la Révolution française. Il a eu, à un certain moment, une vision... quand il a vu comment la Révolution française dérivait vers la terreur et le bain de sang, il a été très déçu de voir ce développement. Il a écrit en réponse à cela les lettres sur l'éducation esthétique qui sont vraiment un monument, qui est quelque chose de très, très, très important et très, je pense, qui répond à beaucoup de questions de notre époque aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, l'Institut Schiller, oui, c'est vrai, a été nommé d'après Friedrich Schiller et dans l'esprit de ce que représente Friedrich Schiller. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier point. L'Institut Schiller, c'est aussi la rencontre entre cette vision en termes culturels, cette vision philosophique aussi des choses. Je souligne quand même que Schiller, hein, c'est toute cette idée... c'est toutes les gens qui ont été en Europe, les partisans... certes de la Révolution française, mais aussi de la Révolution américaine. Il y a eu vraiment un très, très grand mouvement qu'on a oublié aujourd'hui, par exemple autour de Benjamin Franklin, tous ces gens-là, pour une émancipation et sortir l'Europe de l'ancien régime et de la féodalité. Donc c'est ce mouvement-là. Et donc c'est la rencontre entre ce mouvement d'idées, cette philosophie, et le mouvement des non-alignés, qui a donc après donc la sortie des la libération des pays colonisés, la fin de la colonisation, et se poser la question de comment faire en sorte que cette fin de la colonisation, comment on allait construire ça, parce que ce n'était pas si évident que ça. Donc il y a eu notamment le mouvement des pays non alignés. Et Noura a mentionné M. Larouche. M. Larouche, c'est vrai, c'est pas simplement un homme controversé, c'est que c'est quelqu'un qui a fait très peur aux intérêts en place, parce qu'il avait fait un certain nombre de propositions. Alors, une de ces propositions, très tôt, ça c'était dans les années 70, et il avait rencontré, d'ailleurs, je le souligne, il avait rencontré des personnalités telles que Indira Gandhi, des gens qui étaient justement proche ou dans ce mouvement des non-alignés. Et dans les projets qu'il avait mis en avant, il y avait notamment celui d'une banque internationale de développement. Or, cette idée, en fait, a été reprise lors de la conférence de Bandung. Et il se trouve que l'un des cofondateurs de l'Institut Schiller s'appelait Fred Wills. Donc Fred Wills était le ministre des Affaires étrangères du Guyana. Et en 1976, un mois après le sommet de Colombo, donc il y avait l'Assemblée générale des Nations Unies. Et lors de cette conférence des Nations Unies, Fred Wills a repris les propositions qu'avait faites M. Larouche de cette banque de développement international dont le but était spécifiquement de permettre aux pays qui en avaient besoin, les pays pauvres, les pays en voie de développement, les pays qui sortaient de la tutelle coloniale, d'avoir les moyens de leur indépendance. Et ça, c'était quelque chose qui avait été reconnu à Bandung. Bandung avait été justement tout à fait dans cet esprit-là. Et donc Fred Wills, le cofondateur de l'Institut Schiller, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, a repris toutes ces propositions. Donc vous comprenez bien que quand vous avez quelqu'un qui dit « le FMI et le système monétaire de Bretton Woods doit laisser la place à des structures alternatives telles que des banques internationales pour le développement et sans le contrôle de ces institutions financières », vous comprenez bien que quand ces idées-là commencent à se répandre dans le public, les gens qui sont, on pourra dire, les auteurs de ces idées-là ne sont pas vraiment les bienvenus justement de ces institutions internationales. Et c'est ce qui s'est passé avec Larouche, c'est-à-dire que Larouche, en réalité, c'est l'homme qui venait challenger ces tenants d'un ordre colonial, d'un ordre où de ce qui est devenu par la suite la prédation financière qu'on connaît aujourd'hui, et c'était l'homme qu'il fallait abattre et qu'il fallait faire disparaître de l'espace public.
Ces fameuses prédations coloniales dont le symbole est Wall Street, le Wall Street, la rue du mur à New York. Oui. Puisque moi j'ai entendu parler de cette histoire de Wall Street, elle s'appelle la rue du mur parce que autrefois il y avait un mur qui séparait les esclaves qui venaient juste d'arriver sur le territoire américain suite à la fin de leur périple dans le cadre du commerce triangulaire, et que d'un côté il y avait les blancs et puis de l'autre côté tous ces Africains qu'on venait scruter et examiner pour pouvoir les acheter comme des esclaves. C'est l'histoire, je ne sais pas si tu le savais. Alors, c'est une ironie de l'histoire, c'est pour ça que ça s'appelle Wall Street. Ouais, ça ne vient pas de l'époque des grands marchés boursiers et financiers, ce nom-là. Il vient de cette époque de la colonisation, où d'ailleurs nous avons, nous Français, pris une part importante. Je rappelle que ce n'est que très très récemment, on est en 2021, et on a attendu les années 2020 pour faire notre mea culpa, nous Français, et commencer à envisager de parler de l'esclavage, et de la part que la France a pu prendre dans le commerce triangulaire en France. Alors il y a eu des initiatives à Bordeaux et notamment à Nantes avec ce monument. Oui, ça a commencé il y a des années, sans qu'on en parle beaucoup. je sais pas pourquoi c'était aussi tabou. Et puis on a commencé à en parler récemment, sans vouloir faire de la politique, je sais qu'il y a bientôt les présidentielles, simplement dire que ça fait pas très longtemps que la nouvelle génération en France, la nouvelle génération politique est en place. Emmanuel Macron fait partie. Je ne fais pas l'apologie de qui que ce soit, bien entendu, mais simplement d'une génération qui est plus ouverte sur ce genre de choses, notamment sur la colonisation et la période de l'esclavage. Et si on ose en parler davantage, s'il y a eu le rapport Benjamin Stora, s'il y a eu le rapport sur le Rwanda qui ont été faits très récemment, c'est justement parce qu'on a aujourd'hui à la tête de l'État des gens, des hommes et des femmes qui sont issus d'une nouvelle génération qui est beaucoup plus ouverte, qui se rend compte, qui prend conscience des aspects négatifs du colonialisme et de l'esclavage aussi, qui est plus antérieur, quoique chez certains se demande si c'est pas encore de rigueur, et de la responsabilité qu'on a, nous Français, par rapport à tout ça dans l'histoire. Enfin, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire pour rappeler que l'esclavage, ça a beaucoup marqué le monde, hein, ça nous enchaîne encore. Nous, êtres humains, sommes encore enchaînés comme si on était à l'époque de l'esclavage, notamment par justement cette fameuse rue du mur, ce Wall Street, qui était une rue qui séparait les esclaves qu'on mettait en vente et les blancs qui venaient les acheter. C'était juste la petite parenthèse. Tout comme aujourd'hui, les marchés boursiers et financiers et le monde de la finance nous enchaînent. Voilà, je te laisse continuer, Odile, excuse-moi. Des fois, je suis un peu bavarde, il faut savoir m'arrêter. Mais je veux juste rappeler que le principe de notre émission, c'est une émission où j'aime bien laisser couler un peu au fil de l'eau, où on peut rétorquer et faire un peu comme si on était dans une discussion de comptoir. Voilà.
Merci. Oui, j'ajoute, il ne faut pas oublier non plus, moi je ne connaissais pas cette anecdote sur Wall Street que je trouve très intéressante, il ne faut quand même pas oublier dans le tableau la City de Londres, hein, parce que quand même, quand on parle justement d'esclavage, de colonies, il faut comprendre d'où est-ce que ça vient et il faut comprendre c'est quoi ce qu'il y a, la vision économique, parce qu'il y a toujours, on pourra dire, une vision économique qui est sous-tendue derrière ça. Ça c'est encore une toute autre discussion. Donc on va peut-être revenir sur la question de notre conférence, qui par certains aspects d'ailleurs rejoint cette question, parce qu'on a beaucoup développé toute la question justement de l'esclavage économique qui aujourd'hui se fait de manière peut-être plus sophistiquée, mais non moins efficace, notamment au travers de la dette.
Juste pour dire que tu as tout à fait raison sur deux points, je le précise à nos auditeurs, l'Institut Schiller est un institut à vocation humaniste. Par essence, un institut à vocation humaniste, la pensée humaniste est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas juste à une thématique, elle s'intéresse à l'ensemble des rapports humains et à l'ensemble des modes d'organisation sociale. C'est tout à fait logique. Mais tout cela, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on touche à tout de manière superficielle. Pas du tout. Mais au contraire, c'est une façon d'envisager le monde qui est une vision tout à fait systémique. Hein, on va dire c'est de l'approche globale, c'est de l'approche systémique où on considère que toutes les facettes, toutes les dimensions de l'activité humaine se complètent les unes avec les autres pour former un tout. Donc on ne peut pas se consacrer uniquement à un seul domaine. Je pense que c'est ça qui sous-tend avant tout la pensée de Schiller. Et quand Schiller écrivait un poème, et bien tout de suite après il y avait un grand compositeur qui faisait une musique dessus, qui devenait aussitôt l'hymne d'une union économique et monétaire entre certains États européens. Donc ça c'est important de le comprendre, qu'il y a un enchaînement de cause à effet qui embrasse différentes dimensions.
Oui, tout à fait. Et de voir comment la question économique ou la question culturelle, par exemple, enfin, tout ça, évidemment, sont totalement liés. Parce qu'à certains moments, vous allez avoir au niveau économique, vous avez besoin d'une certaine culture qui vous permette, on pourra dire, d'accepter les choses ou de les faire accepter. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine forme de pensée qui dicte la façon dont ce que vous allez accepter en termes économiques. Aujourd'hui, par exemple, on voit, on a une culture qui est très basée sur l'action, réaction, sur tout ce qui est, comment dire, l'action, réaction, et qui n'engage pas nécessairement les gens en profondeur. Et évidemment, si vous n'engagez pas les gens en profondeur, si vous ne faites pas aussi appel quelque part à ce qui est la faculté de penser, bah, ça veut dire que vous avez des gens qui vont pouvoir être guidés plus facilement, qui vont pouvoir être plus dans une vision instinctive des choses et qui ne vont plus réfléchir. Donc ça, bon, c'est encore un autre aspect. En tout cas, en ce qui concerne la question de l'esclavage par la dette, c'est une des choses, parce que nous avons eu donc notre réunion, notre conférence internationale la semaine dernière, qui a abordé ces différents aspects en 4 grandes sessions. Donc tout d'abord la question du danger de guerre, notamment la folie des va-t-en-guerre contre la Russie et la Chine. Après, toute la question du besoin de faire vivre l'humanité, parce qu'on oublie assez volontiers qu'on a besoin pour l'humanité d'énergie, et qu'aujourd'hui, avec toute la ce qu'on appelle le Green New Deal, se pose la question de toutes les énergies alternatives qui ne vont pas permettre de faire vivre la population. Et là, on a un grand problème. Donc ça, c'est aussi un des thèmes qui a été abordé lors de cette conférence. L'autre thème aussi qui a été abordé, c'est justement cette question de la dette, et en particulier de la prédation financière, et comment là nous sommes. Le titre de la conférence, c'était l'Allemagne de cette session, l'Allemagne de Weimar de 1923 à nouveau à nos portes, quelle réforme financière pour juguler le danger d'hyperinflation. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une logique aujourd'hui en termes économiques qui a beaucoup de points communs avec ce qui s'est passé en 1923. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Donc ça a été donc abordé. Et enfin, la dernière session a été consacrée essentiellement à toute la question de la santé. Parce qu'on l'a vu avec la pandémie. Nous avons une pandémie à l'heure actuelle qui a des conséquences absolument mais dramatiques à l'échelle mondiale, qui pose des questions à tout point de vue, en termes notamment aussi de, on pourra dire, de droits civiques, d'accès aux soins. On voit que les réponses à cette pandémie n'ont pas été du tout satisfaisantes, et ça pose la question, ça c'est ce qui a été abordé, comment on pourrait dire mutualiser, si on peut dire, hein, à l'échelle mondiale, une véritable capacité de santé. Parce que vous avez des pays, on le voit par exemple avec les vaccins, les pays occidentaux qui ont les moyens et qui en fait achètent les vaccins, et les pays du Sud qui n'ont pas, en particulier par exemple en Afrique, hein, qui n'ont pas l'argent et qui ne peuvent pas acheter ces vaccins. Mais en plus, si vous voulez, ces vaccins ne sont pas disponibles puisqu'ils sont totalement pris d'assaut par les pays les plus riches. Donc là, il y a un vrai problème, parce que les pays qui auraient besoin, le plus besoin de ces vaccins, sont ceux qui ont le moins accès. Et en plus, ce que l'on voit, c'est des grands groupes pharmaceutiques qui sont dans une logique, parce qu'il y a eu tout un débat sur le fait de rendre les brevets, de les rendre ouverts. Et on voit bien qu'il y a des... Voilà, ça ne se fait pas, parce qu'il y a des réticences justement de la part de Big Pharma et des pays les plus riches. Donc voilà, pour présenter un petit peu cette conférence.
Merci Odile, c'est une conférence très exhaustive. Si je rappelle, tu peux le nom du site de l'Institut Schiller pour nos auditeurs qui s'intéressent à la chose et qui vont aimer notre émission. Tous les deux mois a lieu ce type de séminaire et donc vous pouvez aller sur le site suivant.
C'est institutschiller.org tout simplement.
institutschiller.org de façon à vous inscrire et avoir la newsletter, je pense, et recevoir les autorisations d'inscription pour les prochains séminaires. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de tout suivre, hein, Odile, parce que souvent, ça commence à 14h de l'après-midi, ça finit des fois à minuit, voire même, je me rappelle, une année, l'année dernière, ça avait fini à 1h du matin. Moi, ce qui m'intéressait, c'était à 1h du matin, ça finissait. J'avais.
Oui. Alors, en fait, ce sont des conférences. Ben voilà, c'est le décalage horaire. Alors, en fait, comment ça s'est fait ? C'est-à-dire que quand il y a eu le premier confinement, ben évidemment, c'était compliqué. On ne pouvait plus faire les conférences en présentiel. Donc, on a commencé à faire ces conférences par Zoom. Et en réalité, on a eu tout de suite énormément d'intérêt. Et l'idée a été de faire, en fait, un cycle de conférences avec l'idée de revenir. Il y a parfois des thèmes qu'on reprend, mais parce que effectivement, ce sont des thèmes qui sont totalement liés à l'actualité et qui sont des questions absolument fondamentales, notamment sur tout ce qui se passe, le danger, parce qu'il y a un véritable danger de guerre aujourd'hui à l'échelle internationale. Donc là, c'est par exemple une des choses qui a été développée très longuement parmi les premiers intervenants, et aussi parce qu'on accorde une très très grande importance à toute cette idée de coïncidence des opposés, c'est-à-dire de dire à un certain moment, ok, il y a plein de gens dans le monde qui voient bien que la situation est très grave, très dangereuse. Bon, ces gens, ils ne sont pas toujours d'accord sur tout. Ils peuvent même être de bord, a priori, assez opposés. Mais si on en reste à ça, on ne se parlera jamais et on n'avancera jamais. Donc, à certains moments, il faut se décider qu'on va mettre ensemble des gens sur la base de ce sur quoi ils sont d'accord, même si on sait qu'on peut avoir sur d'autres choses des divergences, mais au moins là-dessus, on est capable de parler ensemble, on est capable de faire des analyses et de dessiner quelles sont les solutions qui seraient nécessaires. Et donc, de ce point de vue-là, par exemple, là, nous avions des représentants de Russie, d'Inde, des États-Unis, qui se sont assis, j'allais dire, à la même table, enfin bon, une façon de parler, hein, puisque c'est chacun était dans leur pays respectif. Voilà, mais par le même, par la même interface commune et qui ont pu parler ensemble et c'était très fructueux. On a eu par exemple un représentant du RIAC de Russie, monsieur Andrei Kortounov, qui est le directeur général du Conseil russe des affaires internationales et qui nous a donné une analyse de ce qu'il pensait de la rencontre qu'il y a eu entre Poutine et Biden le 16 juin. Et c'était une rencontre qui est très, très, très intéressante. Il nous a donné son analyse en disant, OK, bon, du côté russe, c'est vrai qu'on s'attendait honnêtement pas à grand-chose de très positif, mais finalement, on a été plutôt surpris de manière assez. On a vu qu'il y avait quand même des choses intéressantes, non pas que tout a été dit et que tout a été résolu, il s'en faut de beaucoup, mais quand même, sur la question, sur un certain nombre de points totalement fondamentaux, comme par exemple le traité New Start, on ne s'attendait pas nécessairement à ce que Biden reprenne ses propositions, mais il a prolongé ce traité. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important d'un point de vue international, surtout dans la situation de tension qui est très grande à l'heure actuelle. On a quand même été dans une situation où le 23 juin, on a vu un navire de guerre britannique, le HMS Defender, rentrer dans les eaux territoriales russes. Donc, si vous voulez, c'est quand même des choses qui sont qui peuvent être le prélude à des affrontements. Donc, il y a, de ce point de vue-là, une tension internationale qui est palpable et la volonté de résoudre ça. Alors, c'était très intéressant parce qu'on a eu, ça a été un point développé par M. Kortounov. En même temps, nous avons eu Ray McGovern, qui est donc un ancien analyste de la CIA, qui est cofondateur des VIPS. Ce sont les anciens du renseignement, Veteran Intelligence Professional for Sanity. Et le for sanity, pour, comment on pourrait dire, pour ne pas sombrer dans la folie, je ne sais pas comment le traduire précisément, est très important. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent, à un certain moment, il faut arrêter la surenchère pour désigner l'autre comme étant l'ennemi à abattre, que ce soit la Russie ou la Chine. Il faut arrêter cette surenchère parce que ça nous mène totalement droit dans le mur. Et c'est intéressant parce que ce sont, encore une fois, des anciens militaires ou des anciens du renseignement aux États-Unis et qui sont totalement dans la voie opposée à tous ces faucons de guerre qui sont dans cette surenchère, y compris certains qui ne se gênent pas pour dire que oui, après tout, utiliser les bombes nucléaires, ça peut se concevoir. Et ils disent, mais attendez une seconde, ce genre de choses, c'est de la folie. On ne peut pas justement concevoir ce genre de choses parce que l'utilisation d'une bombe nucléaire, ça veut dire l'élimination de l'humanité en l'espace de quelques minutes. Donc, Ray McGovern est revenu d'ailleurs sur le titre de cette session. Le titre, c'est « Ceux que les dieux veulent détruire », trois petits points, la folie des va-t-en-guerre contre la Russie et la Chine. Et Ray McGovern rappelé que ces paroles-là, c'est tiré en fait d'une pièce de Sophocle, Antigone, dans laquelle justement on voit la destruction de dirigeants qui se laissent aller à leur folie. Et il a rappelé en russe, il a récité un petit poème qui est en rappelant d'ailleurs que la Russie a quand même perdu 26 millions de citoyens pendant la Deuxième Guerre mondiale et que les gens qui parlent allègrement de guerre et qui désignent des ennemis à abattre n'ont pas le sens de ce que ça veut dire d'un point de vue humain. 26 millions de personnes tuées du côté russe, du côté soviétique à l'époque, contre par exemple 400 000 aux États-Unis pendant la même guerre. C'est sûr que ça, voilà, c'est des choses auxquelles on doit réfléchir et auxquelles lui appelait ses collègues, enfin ses compatriotes, à réfléchir lorsqu'ils sont dans cette surenchère démente en réalité.
Justement, c'est va en guerre. Ça rappelle la chanson Marl Bruce en va en guerre. Quel est le rapport? Et puis, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'Antigone, puisque tu en as parlé? Je rappelle que en ce moment, à Lyon, puisque les festivals se réveillent, entre deux eaux, je dis bien entre deux eaux, je me permets de le dire sans vouloir être trop pessimiste, parce que on ne sait pas si on va pas avoir un nouveau confinement, donc. Bon, on est encore un peu dans l'expectative, mais enfin à Lyon, se sont ouverts deux événements culturels qui sont particuliers à la ville de Lyon, qui sont la Biennale de la Danse, ainsi que les Nuits de Fourvière. Normalement, la Biennale de la Danse, c'est plutôt en septembre, mais comme elle n'a pas eu lieu au mois de septembre 2020, dans le contexte lié à la Covid-19, ça a été reporté, donc du coup, c'est tombé en même temps que les Nuits de Fourvière, qui ont toujours lieu en été. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a justement un spectacle. Alors du coup, ils en ont profité, pour une fois qu'ils peuvent se permettre de le faire, de faire des choses en commun, les deux festivals. Et donc, il y a un spectacle très intéressant, je ne suis pas encore allée le voir, mais je crois qu'il passe en 2022 sur Paris, donc j'irai le voir en 2022. C'est un spectacle de danse, c'est Antigone. Mais Antigone, cette fameuse héroïne de la tragédie de Sophocle, qui pour moi est, je pense, l'héroïne, l'archétype même de l'héroïne Oui, c'est une femme en pleurs parce qu'il y a la guerre, quoi. C'est très féminin. Et elle pleure parce qu'elle veut qu'on récupère les débris de son frère pour qu'on puisse lui donner l'enterrer dignement. À travers ça, c'est un plaidoyer pour plus d'humanité pour tous. Rappelons que la guerre de Troie est liée au fait qu'on n'ait pas respecté la dépouille d'un Troyen, Achille ayant tiré par les cheveux son concurrent, le corps de son concurrent. Et donc, ça a lancé une des premières guerres mondiales, qui est la guerre de Troie. Ce respect qu'on doit avoir les uns pour les autres, pour soi-même, pour son corps, pour le corps des autres, pour les affaires des autres, c'est quelque chose d'exceptionnel, de très important, et pour moi, et qui est à l'origine de la civilisation, de l'idée même de civilisation et par essence de survie de l'humanité. Et donc Antigone est un archétype féminin qui représente, pour moi, c'est vraiment le personnage, c'est l'héroïne féminine par excellence. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. D'autres, certains ont voulu montrer qu'il y en avait d'autres. Alors par exemple, je me souviens que Isabelle Adjani avait fait une pièce de théâtre où elle voulait jouer l'antithèse d'Antigone. Donc elle avait fait une pièce de théâtre qu'elle avait jouée au Festival d'Avignon. J'avais pas pu la voir d'ailleurs, parce que j'ai su après, j'ai vu un article de presse qui était sorti, où elle jouait le rôle de la sœur d'Antigone, qui est le contraire finalement d'Antigone, c'est la femme au foyer. Mais sans s'en rendre compte, elle par là même, elle voulait peut-être essayer de donner une leçon à toutes ces femmes qui essayent de faire de notre monde quelque chose de bien, mais sans se rendre compte qu'elle faisait l'apologie quelque part de la femme qui est voilée, de la femme qui est mutilée, de la femme qui est enfermée, de la femme qu'on empêche d'évoluer, voire de la femme du péténisme quelque part, hein, avec travail, famille, patrie. Juste très rapidement, qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même une femme qui est à la tête, même si elle perpétue l'œuvre de son mari, c'est une femme qui est à la tête d'une organisation aussi importante que l'Institut Schiller, qui est à l'origine de rencontres aussi importantes auxquelles participent d'anciens hommes politiques, d'anciens chefs de guerre également, des gens qui ont eu des responsabilités, donc c'est pas n'importe quoi, c'est quand même une femme. Donc toi aussi, tu es une femme, Odile, tu es quelqu'un qui a l'air d'être très actif, et qui a l'air d'avoir beaucoup d'idées. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses de tout ça?
Si on regarde historiquement, je pense que ce serait intéressant de toute façon de réécrire, de revoir l'histoire à l'aune des femmes qui sont intervenues dans cette histoire. Donc ça reste peut-être à écrire. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont penchés là-dessus en réalité. Et il y a effectivement toute une dimension de femmes qui ont joué un rôle historique absolument remarquable. Je sais pas, moi je pense en France, comment elle s'appelle, la libératrice de il y avait Jeanne Hachette, il y a eu toute cette histoire qui est présente.
On a eu Françoise Giroud aussi.
Oui, ça c'est plus récent. Hein. Il y a eu.
J'allais dire, qui a-t-on aujourd'hui? Ou alors, il doit certainement y en avoir beaucoup, mais on les laisse pas s'exprimer suffisamment. Sauf quand elles sont avec.
Alors c'est compliqué parce qu'il y a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui restent quand même une vraie difficulté à s'exprimer. Ça, je pense que c'est absolument indéniable. Après, je pense qu'il y a aussi la question de quelles sont les femmes qui ont vraiment aussi quelque chose, une dimension, et ça pose toute la question de l'éducation qui vient avant, c'est-à-dire comment est-ce qu'il y a une vraie éducation du caractère, parce que c'est ça aussi quand on parle d'éducation, est-ce qu'il y a une vraie éducation du caractère qui vont permettre aux jeunes filles de pouvoir se développer. Et je dis ça, je pense à comment dire, Il se trouve que justement dans l'une des conférences que nous avons eues de l'Institut Schiller, je crois que c'était l'avant-dernière, nous avions comme invité Marie Corsaga. Marie Corsaga, c'est une astronome africaine. Elle est de, voilà que j'ai un doute maintenant, je crois qu'elle est de Burkina Faso si je ne me trompe. Et donc elle, c'est déjà quelqu'un qui est très, très intéressante de par son parcours, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais dans son intervention, elle a vraiment fait un appel pour toutes les jeunes filles africaines de prendre au sérieux cette question de se qualifier en tant que scientifique. Et ça, je pense que c'est tout à fait remarquable parce que c'est un vrai défi pour l'Afrique. C'est-à-dire, pour l'Afrique, il y a le défi du futur. Il y a le défi par rapport, parce que quand on pense à l'Afrique, on pense toujours de petits projets de développement, de comment on va faire une école, un puits, etc., etc. Et nous, à l'Institut Schiller, nous pensons qu'il faut prendre les choses par un autre point de vue. Il faut au contraire tout de suite faire en sorte que l'Afrique ait accès aux technologies les plus avancées. Immédiatement, tout de suite, maintenant, et en faisant cela, de former les gens pour ce faire. Et dans ce contexte-là, il est tout à fait clair que le rôle des femmes est absolument essentiel. Et donc, quand Marie Corsaga est en train d'appeler toutes les jeunes africaines en leur disant, la science, c'est pour vous. Il faut que vous deveniez des mathématiciennes, que vous fassiez de la physique, parce que demain, vous allez être les ingénieurs, vous allez être les femmes responsables des projets spatiaux en Afrique. Et voilà, c'est comme ça qu'on va les former. Et je tiens à souligner quand même, parce que justement, il y a des choses très, très intéressantes qui se passent. C'est que, comme vous l'avez peut-être vu, les Émirats Arabes Unis ont, il y a quelques mois de cela, lancé, c'était au mois de mars d'ailleurs, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, ont réussi le lancement de leur tout premier satellite. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Et la personne qui est en charge de ce programme, justement, c'est une jeune femme. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et je pense que c'est de cette manière-là que justement on va avoir que les femmes vont enfin pouvoir jouer leur rôle que jusqu'à présent elles ont joué, mais justement pas à la mesure de ce qu'elles pouvaient faire et de manière qui n'a pas été toujours reconnue pour ce qu'elles étaient, il faut bien le reconnaître, et pas en plein jour, je serais tentée de dire.
Merci Odile. Oui, c'est très important ce que tu dis. J'étais justement en train de rechercher Marie Corsaga pour voir si, on ne sait jamais si tu ne t'es pas trompée, mais ça ne fait rien, on regardera plus tard. Juste très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu es d'accord, Odile, pour que nous passions une petite musique? Et comme nous n'en avons pas parlé avant, je vais l'imposer. Je pense, justement, on en a parlé en début d'émission, c'est la symphonie numéro 9 de Beethoven.
Eh bien, écoute, fort bien, moi, ça me va. Mais
allez.
Attention, elle est un peu longue, quand même.
On va passer un extrait. Ça fait rien, on va en passer juste un extrait. Chers auditeurs, symphonie numéro 9, Beethoven.
Thank you.
Bien, Odile, on vient d'écouter la musique de Beethoven, la 9e symphonie. Alors je rappelle, parce qu'on en a parlé en début d'émission, que une chose que pas beaucoup de gens ne savent, la symphonie numéro 9 de Beethoven, qui est aussi appelée l'hymne à la joie, vient d'un poème de Monsieur Schiller. Voilà, Friedrich Schiller, et que Beethoven a apprécié, et à partir duquel il a construit cette construction musicale. Voilà.
Le dernier mouvement.
Son dernier mouvement. Ça, c'est exceptionnel, et je rappelle à aux rares personnes, aux rares auditeurs qui ne le sauraient pas encore, qu'il s'agit de l'hymne de l'Union européenne. Alors, j'ai souvent tendance à dire que pour qu'il passe du rang d'hymne de l'Union européenne au rang de hymne européen, c'est-à-dire dans une vision plus élargie, plus libre, avec un contexte économique différent, avec moins de domination des multinationales, il y a un sacré chemin à faire. Et on espère qu'un jour, l'hymne à la joie, qui est issu au départ de la pensée de Schiller, enjolivé, non, pas seulement enjolivé, magnifié par celle de Beethoven, deviendra un jour l'hymne de l'Europe, c'est-à-dire des États d'une véritable Europe. Je le souhaite. On va reprendre, Odile. Ça passe toujours trop vite, les émissions. Oui. On a parlé un petit peu de la folie des va-t-en-guerre. Donc, les va-t-en-guerre, bien sûr, c'est ceux qui veulent absolument perpétuer la guerre à tout prix, pour plein de raisons, pour des raisons qui sont liées à des... notamment purement économiques et financières. Récemment, il y a eu un scandale sur la vente de Rafale en Inde par Dassault, qui est quand même une référence française. On sait à quel point les enjeux de l'armement sont importants. Donc, on a tout intérêt à continuer à propager une idéologie de guerre pour pouvoir continuer à faire la guerre et continuer à faire gagner de l'argent à l'industrie de l'armement. C'est pas pour créer des emplois dans un but qui serait tout à fait humaniste. Au contraire, c'est pour faire gagner de l'argent à un minimum de personnes. Tu avais parlé un petit peu de l'actualité. Alors, quels sont les autres points d'actualité qui ont été évoqués lors de ce séminaire ? Très rapidement, parce que j'aimerais bien qu'on puisse parler un petit peu de l'Allemagne de Weimar.
Oui. Alors justement, je rebondis là-dessus parce que ça a été un des points d'actualité qui a été développé, en particulier par Madame Larouche, hein, qui a fait un récapitulatif de toutes les incidents particulièrement, on pourra dire, dramatiques qui se sont succédés, et puis surtout de comment l'OTAN, à l'heure actuelle, est en train de finaliser son expansion. En particulier, elle est revenue sur le fait que quand il y a eu la chute du mur de Berlin, il y avait eu la promesse qui avait été faite à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Quand il y a eu la réunification de l'Allemagne, hein, donc en particulier. Et donc, récemment, on a vu apparaître des rapports, notamment venant de Chatham House en Angleterre, qui est qui est un des instituts des affaires étrangères, dans lequel ils disaient, mais non, ce truc-là, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de promesse qui a été faite à Gorbatchev de non-extension de l'OTAN à l'Est. Et donc, elle est revenue sur toutes les instances, soit à la conférence de Malte, au sommet d'Ottawa, ou etc., où justement ces promesses ont été faites soit verbalement, et il y a même une trace écrite de cela dans les notes du traducteur de Edouard Shevardnadze, qui était le ministre des Affaires étrangères russe à cette époque. Donc, c'est un fait établi qu'il y a bel et bien eu cette promesse qui a été faite et qui a été violée. Tant et si bien que l'OTAN, à l'heure actuelle, est vraiment aux frontières de la Russie, mène des manœuvres extrêmement importantes, mais pire encore, tout récemment, Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, a déclaré qu'en réalité, l'OTAN n'est pas simplement une force, une organisation militaire, mais qu'elle a une vocation aussi politique. Donc, si vous voulez, là, quand même, on passe à un cran qui va très, très loin. D'autant plus quand même que l'OTAN a déclaré que maintenant elle voulait aussi investir le champ du réchauffement climatique, hein, et c'est-à-dire d'avoir en fait une surveillance sur tous les engagements qui sont pris par rapport au réchauffement climatique. Donc si vous voulez, ça fait quand même, malgré tout, on peut se dire, ok, mais qu'est-ce que l'OTAN, qui est un truc militaire, a à voir là-dedans ? Hein, franchement, ça pose la question. Alors ça, c'est un premier aspect. Et l'autre aspect sur la question de l'armement et des va-t-en-guerre, ce qu'a rappelé Madame Larouche, c'est qu'il y avait eu ce projet des néoconservateurs américains qui s'appelait le PNAC. C'est le nouveau siècle américain, Project. J'ai plus en anglais maintenant la définition, mais en fait, en gros, si vous voulez, c'était l'idée qu'il y aurait un nouveau siècle américain, d'hégémonie de facto américaine, ce qui voulait dire nécessairement qu'on était dans l'unilatéralisme, et c'est cet unilatéralisme qui est d'ailleurs contesté tant par la Chine que par la Russie, mais maintenant par certains autres pays, l'Inde par exemple. Nous avions un intervenant de l'Inde, monsieur Atul Aneja, qui a très clairement exprimer le désir, pas simplement le désir, mais le fait que l'Inde ne reconnaît pas cette vision unilatérale, et que vous avez des forces en Inde qui souhaitent absolument s'associer au multilatéralisme et notamment faire partie de ce projet des nouvelles routes de la soie, un petit peu dans l'idée de ce qu'il y avait avec les BRICS. Hein, les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc, il y a cette réalité. Mais du côté occidental et plus particulièrement américain, c'est ce sur quoi Madame Larouche est revenue, c'est comment justement il y a une interdépendance absolue entre les milieux industriels. Vous savez, Eisenhower avait parlé du complexe militaro-industriel. Bon, quand dans son discours d'adieu, ça c'était en 62, si je ne me trompe. Et aujourd'hui, c'est plus que le complexe militaro-industriel, parce que ça implique aussi, ça implique Silicon Valley, ça implique les médias, ça implique même les milieux académiques, universitaires. Donc vous avez une espèce de machine qui est assez importante, et évidemment les industries d'armement. Et très précisément, elle a rappelé comment vous avez aujourd'hui cinq des plus gros investisseurs de Lockheed Martin, donc c'est un des grands fabricants d'armes, qui sont des entreprises, des firmes financières de Wall Street. Vous avez par exemple Vanguard Group, vous avez State Street Corporation, vous avez BlackRock, qu'on retrouve là-dedans. Vous avez Capital World Investment, vous avez Wellington Management Group, qui sont des investisseurs, donc des grandes firmes de Wall Street, qui sont en même temps des entreprises, des investisseurs, là pour le coup de Lockheed Martin, mais on retrouverait les mêmes pour d'autres, pour Raytheon, enfin les grands groupes d'armement. Et vous avez donc le secrétaire d'État à la Défense, qui est lui-même un ancien de, je ne sais pas comment on le prononce exactement, Raytheon, qui est un de ces groupes d'armement. Donc si vous voulez, vous avez une espèce de conglomérat ou de porte tournante entre le public, le privé. Bon, c'est très courant aux États-Unis, mais où la politique des États-Unis, et bon, j'enfonce peut-être une porte ouverte en disant cela, est largement déterminée par des intérêts des corporations financières et d'armement. Et donc, de ce point de vue-là, la politique unilatérale des États-Unis à l'heure actuelle a besoin de désigner des ennemis. Elle a besoin de désigner la Chine, la Russie ou d'autres comme étant des ennemis. Ça, c'est une chose. Et de dépenser des sommes, mais absolument considérables. Une des choses sur lesquelles Madame Larouche est revenue, c'est toutes les guerres. Vous savez quand même que là, les États-Unis viennent de retirer leurs troupes d'Afghanistan, hein, de la base de Bagram. Mais voilà une guerre qui a duré 20 ans, qui a coûté des sommes considérable, qui est un échec total, comme la guerre du Vietnam a été un échec total, comme la guerre en Irak, qui a quand même coûté 2000 milliards de dollars, a été un échec total, avec des vies brisées, avec un pays qui a été détruit, hein, et où ça prendra des décennies sans doute à ce qu'il puisse se reconstruire. Et on estime qu'il y a eu 1 million de personnes blessées et tuées en Irak. Certains disent moins, bon, ça dépend de qui parle, évidemment, mais le chiffre de 1 million me paraît totalement vraisemblable. Tout ça pour des calculs qui sont davantage des calculs économiques et des calculs économiques de pouvoir, d'hégémonie. Voilà, donc c'est ça la réalité. Et c'est contre ça, à l'heure actuelle, qu'il y a une très forte réaction. Et c'est aussi parce que les nouvelles routes de la soie proposent un autre projet que c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté de la part de ces intérêts. Parce que vous avez un projet qui n'est pas basé sur la guerre, mais qui est basé sur le développement des infrastructures, qui est basé sur un partenariat entre les pays. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose de totalement inacceptable pour ces intérêts financiers.
Oui, exactement. Et je trouve que ce que tu dis est très intéressant. Et notamment, l'idée qu'il y a une perspective émancipatrice et civilisationnelle qui s'ouvre actuellement avec une acuité terrible à notre époque. On est dans un tournant de l'histoire avec l'impression qu'il y a une opportunité à saisir qui est inédite, qui a eu d'autres opportunités comme celle-ci, peut-être au XIIe siècle, ou à d'autres périodes de l'histoire de l'humanité, qui, je le rappelle, est encore très courte, si on raisonne à une échelle planétaire, enfin, sur le champ, un champ plus élargi, une perspective plus multidimensionnelle et qui s'étend... qui s'intéresse à l'histoire du cosmos et non pas uniquement à l'histoire de notre espèce, voilà, on va dire. Et donc, et cette opportunité-là, on a l'impression qu'en ce moment, on est à une période de l'histoire, ça s'est déjà produit, mais ça se produit avec une acuité très importante aujourd'hui, où il y a une lutte contre ceux qui veulent qu'on s'engouffre dans cette vision, dans cette opportunité émancipatrice et civilisationnelle, et ceux qui ne le veulent pas, parce qu'ils ont l'esprit bouché, parce qu'ils ont des intérêts à court terme, ou tout simplement parce que ce sont des gens qui haïssent, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Hein. Finalement, tout à l'heure, on parlait de l'émancipation, pas de l'émancipation, mais de l'importance de la femme et du décalage entre Antigone et sa sœur qui est au foyer, et puis sa sœur qui est bêtement au foyer, qui s'occupe de la maison, pendant que Antigone, elle, essaye, en laissant faire à l'extérieur, même s'il y a de la barbarie, pourvu qu'elle s'occupe de son chez-soi, alors que son antithèse, Antigone, qui est l'héroïne par essence, est celle qui va s'insurger contre la barbarie, justement, qui va dire que pour que nous puissions conserver le nom d'être humain, et ne serait-ce quand même qu'un nom, il faut en arrêter avec la barbarie. La barbarie, ça va être... et par exemple, moi je sens que Sophocle, quand il a écrit sa tragédie, quand il parlait des restes du frère de Antigone, pour lesquels Antigone plaide, et elle plaide pour l'humanité de son frère, pour la perpétuation de sa mémoire et pour sa dignité d'être humain, derrière tout ça, il y a l'idée qu'à l'époque, je pense qu'il devait exister un prince qui était enclin peut-être à la barbarie ou à la cruauté et qui faisait des guerres, et que Antigone évoque, c'est ce prince-là que Antigone évoque. Peut-être que même que Sophocle s'est caché derrière cette idée des restes d'un prince qui serait mort, pour évoquer en fait de son vivant un prince qui existait à l'époque, pour éviter la répression, il a inventé cette histoire de reste et de sœur, en voulant tout simplement rappeler ce prince à l'ordre en lui disant il faut faire attention parce que vous allez perdre votre âme si vous continuez. Mm-hmm. Votre âme, vos restes, c'est votre âme, quoi. Mm-hmm. À l'époque, on accordait quand même une grande importance aux sépultures pour la perpétuation de l'âme et la possibilité d'une réincarnation. Et donc, la Grèce, l'Égypte n'était pas loin dans l'histoire. Il y a même une époque où elles se sont beaucoup rapprochées. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire le rapprochement. Et je pense que derrière tout ça, et tout comme, Beaumarchais, à son époque, a critiqué les privilèges en faisant rire les gens, en faisant parler un valet, quoi. Donc, je pense qu'on va être obligé d'en finir pour l'émission d'aujourd'hui avec tout ça. On parlera de l'émission de l'Allemagne de Weimar la prochaine fois. Et je te laisse terminer, parce que je crois que tu as quelque chose à dire, Odile. C'est hétéroclite, mais on devrait faire des émissions plus souvent. Oui. Voilà, je te laisse terminer.
Oui, justement, oui, par rapport à cette question de la Grèce, parce que je parlais tout à l'heure de la question de la culture, et c'est très intéressant comment la Grèce s'est construite aussi avec les pièces de théâtre. Parce que je fais le lien entre ce que tu disais sur la question civilisationnelle. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, oui, clairement, on est à un embranchement civilisationnel. Or, si on regarde qui a un projet de civilisation aujourd'hui, il faut bien reconnaître, et ça va pas plaire ce que je vais dire à plein de gens, je le sais, mais il y a qu'un seul pays réellement qui a un projet civilisationnel, justement, c'est la Chine avec les nouvelles routes de la soie. Voilà, ça c'est un fait. On peut être d'accord ou pas avec la chose, on peut avoir toutes sortes de reproches vis-à-vis des Chinois, mais ils ont un projet à long terme pour le futur, ils savent ce qu'ils veulent, ils veulent y mettre les moyens, ça c'est une réalité qui restera. Et en termes de projets civilisationnels, il y a eu d'autres époques dans l'histoire où cette question s'est posée. Et bien que ne connaissant pas suffisamment l'antiquité grecque, ce qui apparaît quand même de manière décisive, c'est comment les grands auteurs grecs ils ont éduqué la population. Il y avait cette idée, de toute façon, en Grèce, de l'aide. Et d'ailleurs, je peux faire une parenthèse pour revenir à Beethoven, parce que Beethoven s'intéressait beaucoup, a beaucoup lu Homère en particulier, et lui aussi se considérait un petit peu comme l'aide. L'aide en musique, non pas en poésie. Et l'aide, c'est plus que simplement un poète, c'est celui aussi bâtit au travers de sa parole, il bâtit aussi la cité. Et les grands auteurs grecs, ils ont eu un rôle considérable pour bâtir la cité grecque et pour bâtir la démocratie, et notamment en s'attaquant, en montrant ce qu'étaient les dieux de l'Olympe et en éduquant la population par rapport à ça. Donc ils ont joué un rôle absolument essentiel pour faire en sorte que la population, à un certain moment, soit éduquée tout simplement. Voilà. Et ça, c'est la chose la plus importante à retenir.
Merci Odile, je suis obligée de finir, mais on va continuer avec l'émission suivante, puisqu'on avait prévu de faire deux émissions. Juste dire à nos auditeurs, parce que tout à l'heure, justement, tu viens de terminer avec la Grèce, et je pense que tu commenceras la prochaine émission avec la Grèce aussi, parce qu'il y a un message très important. Tout à l'heure, je parlais d'un spectacle de danse qui est en ce moment à la Biennale de la Danse. Je crois qu'il est passé, c'était début juin, entrecroisé avec les Nuits de Fourvière. C'est Antigone à Molenbeek, c'est-à-dire que Antigone aujourd'hui elle est en Belgique dans ce foyer du terrorisme islamique. Et donc je laisse 3 points de suspension. Ceux qui veulent aller voir le spectacle, je crois qu'il repasse, il faut aller regarder sur le site, vous tapez Antigone à Molenbeek, et c'est un spectacle de danse qui, je pense, doit faire beaucoup réfléchir. Chers auditeurs, chères auditrices, excellente semaine à vous, à la semaine prochaine. Odile, au revoir.
Merci à tous et à une prochaine fois, j'espère.
Au revoir.